Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous n'avez pas eu besoin de rouler votre bosse pour en franchir beaucoup d'autres. Et cela avec un tel bagou que le champion de ski que vous êtes aurait pu monter sur d'autres planches, celles du théâtre. Bonjour Edgar Gampiron.
Bonjour Jacques.
Alors on connaît bien sûr vos titres de champion, vous avez aussi d'autres activités. On va en parler beaucoup et puis on va parler de ce ski acrobatique qui est finalement une discipline que vous avez lancée. Avant vous, on n'en parlait pas beaucoup. Et on va le faire à travers des dates, c'est la tradition des clés d'une vie. Et la première date que j'ai trouvée, c'est le 23 mars 1987. C'est votre première télé avec le générique suivant. Sport Dimanche. C'est le premier podium en Coupe du Monde à La Clusaz et vous êtes interviewé pour la première fois, je crois.
Eh oui, premier podium, premier privilège donc d'être interviewé. Ouais. C'est toujours surprenant.
Oui, on s'habitue très vite ou on a peur au début ?
On a peur au début, on a peur de répondre à côté ou de pas trouver les mots et puis on s'habitue, oui. Ouais, on s'habitue d'être de ce côté-là du micro. Je sais qu'être de l'autre côté, c'est aussi très difficile et assez angoissant.
Oh, ça va, on s'habitue avec des gens comme vous, on n'a pas de problème. Alors, vos parents sont en larmes dans ce reportage. Je ne sais pas si vous en souvenez.
Non, je ne m'en souviens pas.
C'est Daniel Potra qui fait le reportage, qui depuis a suivi 40 Tours de France, et en particulier les Poulies d'Or. Et vous êtes dans cette émission qui avait été créée par Raymond Marcillac, qui était un champion du 110 mètres haies, et qui avait fait débuter le sport à la télévision le soir, les résultats sportifs, avec des gens comme Thierry Roland et Michel Drucker, qui ont débuté dans cette émission. Et la course a été remportée par Berton, et je crois que vous êtes deuxième ou troisième.
Troisième.
Troisième, mais pour vous, c'est un beau résultat.
Oui, c'était un super résultat parce que j'avais que 17 ans, c'est mon premier podium en Coupe du Monde et j'avais à cœur de prouver que voilà, je pouvais skier parmi les grands. Et déjà, se distinguer de l'équipe de France, c'était pas facile parce que c'était la meilleure équipe du monde à cette époque. Et en plus, de finir sur le podium derrière Éric Berton qui était champion du monde en titre, c'est un grand honneur déjà.
Et il y avait une femme aussi, Raphaël Monod, qui a remporté l'épreuve, parce que c'est un sport pour les hommes et pour les femmes, Edgar Gampiron.
Oui, c'est ça. Et Raphaël, on a le même âge, donc elle avait 17 ans aussi, et elle était très précoce, puisqu'elle gagnait déjà des Coupes du Monde à cet âge-là. Pour moi, en tout cas, la plus grande skieuse de bosse de tous les temps.
Alors, la Coupe du Monde de ski acrobatique, on ne le sait pas beaucoup, elle a été créée en 1976 par des passionnés.
Oui, exactement. Des gens qui, en fait, étaient partis aux États-Unis pour découvrir ce sport qui balbutiait là-bas et qu'on appelait le hot dog. Je sais pas pourquoi. Hein. Mais oui, effectivement, il y avait un circuit professionnel avec ce qu'on appelle des prize money, donc des courses qui étaient primées par des chèques. Pour les meilleurs et c'était un spectacle absolument incroyable. En tout cas, moi je trouve encore aujourd'hui que c'est sans doute l'époque la plus incroyable parce que il y avait quasiment pas de règles. En tout cas, il y en avait une que je trouvais vraiment intéressante qui consistait à dire que une chute n'était pas grave à partir du moment où le retour la sortie de la chute si la chute se faisait dans le mouvement et qu'on arrivait à repartir sur les skis et à continuer à skier à ce moment-là gagnait des points plutôt que d'en perdre et je trouvais ça assez magnifique et je trouve que c'était la plus belle époque parce que c'est finalement grâce à ce que je viens de raconter que la créativité était la plus belle.
Alors, il faut savoir que dans les années 1920, il y a un Allemand qui s'appelle Fritz Roell qui a déjà inventé des figures à ski à l'image de celle du patinage artistique. Et c'est vraiment le pionnier. Il a fait un recueil des nouvelles possibilités du ski. Et les techniques qu'il décrit, c'est finalement ce qui est né dans les années 60 aux États-Unis, le ski acrobatique.
Oui, sans doute. Alors, je ne suis pas remonté jusque-là dans l'histoire. Vous êtes beaucoup plus informé que moi sur mon sport. Mais effectivement, c'est dans les années 60-70 que ce sport a vraiment est devenu un sport en vogue.
Alors, vous êtes né à Saint-Julien en Genevois, qui est une ville dont le maire a été Pierre Mazeaud, un sportif puisqu'il a été membre de la première expédition française sur l'Everest. Vous êtes né là-bas, mais vous avez grandi ailleurs ensuite, Edgar Gampiron.
Oui, en fait, mes parents habitaient dans le Jura, à l'Aileix plus précisément, il fallait passer le col de la Faucille, traverser le bassin genevois pour arriver au premier hôpital qui était à Saint-Julien-en-Genevois. Et c'est effectivement là que ma mère a accouché. Et très vite, au bout de quelques jours, on est reparti dans nos montagnes jurassiennes.
Voilà. Vous avez appris à marcher, mais tout de suite à faire du ski, je crois que ça a commencé à 18 mois, Edgar Groupiron.
Mes parents tenaient un hôtel à l'Aileix et pour être un peu tranquille, parce que je travaillais beaucoup, ils me collaient avec des skis aux pieds l'hiver dans le tennis, parce que c'était un parc clos par les grillages. Et comme ça, voilà, j'étais un peu... ils n'avaient pas besoin de me surveiller.
Et le ski acrobatique, c'est venu comment ?
En fait, c'est venu après deux années, deux mauvaises années de ski alpin que j'avais fait au club des sports de La Clusaz. Deux années au cours desquelles voilà, je faisais du piquet, quoi, du slalom, et ça me plaisait pas du tout. Et le directeur du club des sports m'a dit, soit tu arrêtes, soit tu fais des bosses, parce que les bosses, ça a l'air d'être un peu plus en phase avec ta personnalité. Et donc, j'ai dit, pourquoi pas ? J'ai essayé, et en fait, quand je suis arrivé au club des sports, enfin, ce qu'on appelle au ski de boss, au ski acrobatique, il m'a fallu 3 minutes d'adaptation à un groupe de jeunes qui se font la gueule, et j'ai adoré complètement à la fois l'ambiance, puis le sport, puis l'entraîneur qui était là, le groupe qui était là. C'était vraiment, on était là pour s'amuser, et moi, c'était exactement pour ce pourquoi je faisais du ski.
Et puis, vous avez tout de suite dit que vous seriez un jour le meilleur skieur du monde, Edgar Groupiron.
Ouais, en fait, ça, c'est un rêve que j'avais depuis tout gamin, parce que mes parents étaient commerçants, donc d'abord dans le Jura, puis ensuite dans les Alpes. Et la première compétition à laquelle j'ai participé, c'était une course des parents d'élèves. Et j'ai ramené la médaille d'or, le premier biberon. C'est la catégorie biberon, vous voyez, pour vous dire à quel point de la course des parents d'élèves. Et quand j'ai ramené cette médaille, je vais exagérer un peu, mais pour la première fois, j'ai vu une sorte de satisfaction, de plaisir, de fierté dans le regard de mes parents. Et de là est né le rêve d'être un jour le meilleur skieur du monde.
Et ensuite, vous êtes allé à Avoriaz.
C'est ça. Ça s'est passé à Avoria. Et effectivement, mes parents travaillaient en fait à Avoria avec et pour Jean Vuarnet, qui était champion olympique de descente. Et il tenait son magasin de sport. Et moi, j'ai fait une connexion, je pense aussi avec entre mon rêve et aussi avec Jean Vuarnet. C'est-à-dire, je voulais pas être un skieur, pour être un skieur, mais je voulais être un skieur pour être le meilleur skieur du monde, parce que la fierté que j'avais vue dans le regard de mes parents, c'est une fierté qu'ils avaient quand ils parlaient ou quand ils étaient avec Jean Vuarnet.
Et moi, je me souviens d'un festival de cinéma à Avoria qui avait lieu tous les ans, festival du cinéma, fantastique. Et je me souviens d'un jour, Carlos faisant du ski, faisant une chute, mais avec son poids, ça s'est transformé en boule de neige. C'était assez étonnant. Tout le monde a pris peur.
Ouais. Et puis surtout s'il est tombé dans la poudreuse.
Oui, c'était de la poudreuse. C'était impressionnant.
Ouais, c'était fantastique, cette époque du festival du film fantastique. J'ai fait pas mal d'éditions aussi, et mes parents travaillaient encore, et même ont travaillé pour le festival. On équipait les festivaliers avec des belles tenues, des belles doudounes.
Voilà. Et il y a eu une histoire très drôle, c'est-à-dire qu'au cours d'un festival, il y avait un voyage en train depuis Paris, on offre une voiture, soi-disant, à celui qui gagnera la compétition de roulette. Donc, triche totale de tout le monde. Et ça a été monstrueux. Et en arrivant, effectivement, il y a eu les résultats. Et la personne qui a gagné la voiture, toute contente, arrive avec ses pions. La voiture était une miniature. Ça n'a pas marché du tout. Ça a été la moquerie de ce festival, qui était aussi quelque chose de privilégié.
Ah oui, c'était... disons que la station, qui est une station sans voiture, à 1800 mètres d'altitude, se prêtait formidablement à ce type de festival, parce que déjà l'ambiance est assez surnaturelle à Avoria. Et en plus, le festival du film fantastique, moi je me souviens être allé voir des films comme Christine ou des films comme L'Ascenseur, The Lift, et sortir de là... me retrouver un peu, enfin, à minuit, dans la station, avec les flocons qui tombent. Il y avait cette ambiance très particulière. Et on avait déjà des frissons pendant le film. Alors, quand on sortait, qu'il fallait rentrer à l'appartement, c'était aussi très angoissant.
On va changer de climat avec une autre date, le 15 septembre 1991. À tout de suite sur Sud Radio avec Edgar Gropion.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, c'est d'un champion, Edgar Gropiron. Alors, plusieurs dates qui vous rapprochent de souvenirs. Le 15 septembre 1991. Alors, ces images, je suis retrouvé d'un stage à Lacano, un stage de ski acrobatique de l'équipe de France au bord de l'océan.
Ouais,
et on
tout
vous
à fait.
Voit sur une plage en train de faire les mouvements de ski.
Ouais, Nano Pourtier, qui était l'entraîneur, le capitaine des équipes de France, nous emmenait nous oxygéner avant l'hiver 2 semaines à Lacano, effectivement, et où on avait des séances de préparation physique dans le sable, dans les dunes le matin, qui étaient vraiment des séances très très dures, très très physiques. Et c'était pas que de l'oxygénation, je veux dire, on avait un vrai travail. Et plus l'air de l'Atlantique, c'était vraiment quelque chose de très bénéfique pour nous. Et on adorait faire ces stages-là.
Oui, et c'était joyeux puisqu'il y a une image où votre entraîneur est couvert d'eau par des tuyaux d'arrosage.
Ouais, c'est vrai qu'on a toujours eu le chic pour allier le plaisir et le travail. Et c'est pour ça qu'on a d'ailleurs toujours bien performé en équipe de France. C'est qu'on avait un entraîneur qui a cette faculté-là de faire en sorte de transformer la pression d'enjeu en jeu, de faire de notre métier un jeu. Et ça correspondait tout à fait à l'esprit de notre sport.
Et à Lacano, il y a une compétition de sport, de surf, qui est très connue dans le monde et qui fait partie du championnat du monde. Et le surf aussi, ça fait partie de vos sports, parce que je crois que vous faites plein de sports en dehors de ça.
Oui, tout à fait.
La moto,
oui.
Le cheval, tout y passe.
En tout cas, à Lacano, on se défoulait vraiment parce qu'on avait entraînement le matin. Et l'après-midi, il y avait sport obligatoire. Donc effectivement, on passait des heures dans les vagues à essayer de franchir la barre pour aller surfer des vagues, et c'était très très physique, très 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 bon, et on faisait plein de sports différents, effectivement, mais on avait besoin, parce que je veux dire, faut quand même se rendre compte qu'on fait un sport assez complet. Le ski de boss, c'est très explosif, il faut de l'équilibre, il faut une bonne gestion de son corps dans l'espace, donc on faisait tout un tas de sports qui permettaient de développer ses compétences.
Le ski nautique aussi.
Ski nautique, ouais, effectivement, trampoline, beaucoup de trampoline, on faisait de la moto. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça a à voir ? Ben rien, mais on en faisait quand même.
C'est quand même dangereux, non ?
Oui, mais ça, la prise de risque a toujours été quelque chose qui faisait partie de notre quotidien. Donc on se blessait, mais on a toujours appris à composer avec.
Alors le ski nautique, ce qui est curieux, Edgar Gropiron, il a été expérimenté en France par des chasseurs alpins. Il se faisait tracter sur un bateau sur le lac d'Annecy. Et c'est comme ça que ça a débuté, et c'était des planches de bois qui n'avaient rien à voir avec des skis, mais c'était les premiers pas du ski nautique en France.
Eh ben écoutez, j'en apprends une belle, parce que en plus sur le lac d'Annecy, ça me fait plaisir.
Alors, effectivement, le ski acrobatique, ce sont des mouvements particuliers qu'il faut répéter sans cesse au millimètre, Edgar Gropiron.
Oui, tout à fait. Donc, c'est une descente de 300 mètres de long qui s'enchaîne. On fait à peu près 65 virages. Il y a 2 sauts. Donc, il faut à la fois avoir une très bonne capacité à contrôler son ski, ses virages. Et puis, les sauts, c'est de l'acrobatie, donc une très bonne capacité à maîtriser son corps dans l'espace, pour faire des figures en l'air, pour bien se réceptionner. C'est un sport d'équilibre, c'est un sport de contrôle, c'est un sport de vitesse. Ça allie beaucoup de choses, et c'est un sport spectacle, et c'est aussi pour ça que je l'adorais.
Oui, mais en même temps, c'est difficile au départ de faire de l'équilibre, de faire des figures. Ça ne s'apprend pas en quelques mois.
Ah non, ça s'apprend, et ça prend du temps, effectivement. Mais quand on arrive dans ce sport, en plus, moi j'arrivais du ski alpin, et c'est une technique de ski qui est complètement antinomique par rapport au ski alpin, où grosso modo, il faut avoir en ski alpin les pieds écartés, alors que dans les bosses, les pieds serrés. En ski alpin, on fait des grands virages en ski de bosse, il faut les virages, les pieds serrés, et puis faire des petits virages. Et puis en ski alpin, on utilise le virage pour accélérer, alors qu'en ski de bosse, le virage, c'est un coup de frein. Et donc c'est aux antipodes, mais ça s'apprend comme tout.
Et puis vous avez aussi appris à l'école parce que votre emploi du temps a été aménagé pour que vous puissiez faire du ski et en même temps faire vos études, Edgar Gaupiron.
Oui, ça, j'ai eu cette chance-là d'avoir pu faire cet aménagement, mais il a été possible qu'à partir du moment où j'avais décidé de faire du ski un métier, donc de lui donner une priorité par rapport aux études. C'est pas le cas de tout le monde. Beaucoup de mes copains avaient des parents qui disaient alors progéniture, tu passes ton bac d'abord ou tu feras des études de droit comme ton père. Moi, ça n'a pas été le cas. Mes parents ont eu cette intelligence de me dire fais un choix et puis on te suivra. Et après, évidemment, il a fallu que j'assume ce choix jusqu'au bout. Mais mes parents m'ont laissé cette liberté et donc de prendre ma vie en main.
Et vous avez atterri à la Clusaz.
Et c'est là que j'ai commencé le ski de bosse, effectivement.
Et le ski de bosse, quand même, ça demande des pistes spéciales, Edgar Gaupiron.
D'autant qu'aujourd'hui, on a tendance à damer toutes les pistes. Donc, effectivement, ce sont des pistes, des murs, en fait, des murs très raides, qui ne sont pas accessibles aux ratraques, aux dameuses. Et donc, le passage des skieurs creuse les bosses, tout simplement. Et c'est là-dedans qu'on s'exprime, oui.
On dit que la neige est sale.
Pourquoi ça?
C'est souvent parce que c'est une caractéristique. Elle n'est pas aussi blanche, peut-être à cause justement des skieurs qui sont passés et des bosses. C'est pas de la neige toute blanche.
Non, c'est pas de la neige. Enfin, ça va dépendre plutôt de la dernière chute de neige, effectivement.
Alors, il y a eu aussi, avant vos Jeux Olympiques, d'autres Jeux Olympiques. Et ceux de 68 sont restés célèbres.
Je proclame l'ouverture des 10e Jeux Olympiques d'hiver de Grenoble.
De Gaulle en 68 à Grenoble, devant 68 spectateurs sur les gradins d'un stade olympique en fer à cheval. Bon, ce sont des images qui sont lointaines, mais pour vous, elles vous ont marqué aussi, Edgar Gaupiron.
Même si je n'étais pas né, elles ont bercé mon enfance. Les performances de Jean-Claude Killy ont été révélatrice, je pense, de beaucoup de vocations. Quand on est à la montagne, dans les jeunes de ma génération, hein, les gamins de ma génération, moi je suis né en 69, donc un an
juste après.
Mais vous savez, le regard que nos parents portent sur ces champions, sur leur époque, influence aussi notre trajectoire. Donc moi, ça a été effectivement les Jeux de 68, enfin surtout Jean-Claude Killy qui ont fait aussi ce que j'avais envie de faire, mais surtout Jean-Claude Killy quand j'ai eu la chance de le rencontrer avant les Jeux d'Albertville, dont il était l'un des deux coprésidents avec Michel Barnier.
Voilà. Et à l'époque, lorsque vous avez grandi, vous avez dit « Je veux aller aux Jeux Olympiques et je gagnerai ». Et je crois qu'un conseiller d'orientation vous a pris pour un fou, Edgar Gaupiron.
Oui, c'est sûr que quand vous arrivez à l'école et que vous leur dites que l'école n'est pas votre tasse de thé et que vous voulez être champion du monde ou champion olympique de ski, ils vont, en plus, en ski de bosse, ils vont vous prendre pour quelqu'un de pas très, pas très cohérent. Enfin, en tout cas, pas très sage. Et effectivement, moi, j'ai toujours eu du mal à partir avec les études et avec les gens l'éducation, la scolarité, quoi. Ça a toujours été difficile. Ouais.
Oui, mais c'était votre côté rebelle et finalement, vous ne pouviez pas imaginer que ça se passerait autrement.
Non, moi je pouvais pas l'imaginer. Maintenant, faut pas faire une généralité de ça. C'est-à-dire que je me suis aussi donné les moyens pour y arriver.
Ah oui.
Et il suffit pas de dire je vais gagner pour gagner. C'est sûr que ça aide d'avoir cette intention, mais cette intention, elle doit vivre tous les jours à l'entraînement pour non pas gagner, mais déjà créer les conditions pour qu'on soit en mesure de gagner, ce qui est déjà pas évident.
Non. Et vous avez gagné. On en parle dans quelques instants avec une autre date importante pour vous, le 12 février 1992. A tout de suite sur Sud Radio avec Edgar Gaupiron.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Edgar Gaupiron. Une date importante, 12 février 1992, l'ouverture de ces Jeux Olympiques d'Albertville avec une mélodie chère au cœur de ceux qui aiment le sport. Ça vous rappelle des souvenirs, Gaël Piron.
Ah ouais, des sacrés souvenirs, parce que rentrer dans un stade, dans son propre pays, un stade olympique où les drapeaux aux cinq anneaux sont là et flottent, c'est et la ferveur et voir enfin se concrétiser une ambition, l'ambition d'une nation, c'est particulièrement émouvant et fort, c'est très très fort.
Alors, le 12 février 92, vous remportez la finale de ski acrobatique. Vous étiez préparé, même la nuit d'avant, vous n'avez pas dormi, je crois.
Ouais, alors, je peux pas vous dire si j'ai bien dormi. Enfin, je peux vous dire que j'ai pas spécialement bien dormi, c'est sûr. Mais je me suis quand même un peu reposé. Donc, oui, il fallait. c'est sûr qu'on dort pas beaucoup. Disons que la moindre. Ce qui est marrant, c'est que ces veilles de course. On a un sommeil effectivement très très léger et la moindre idée ou va venir générer une sorte de gamberge comme ça qui peut ne pas s'arrêter. Et moi, c'est dans ces moments-là que j'ai appris à faire la part des choses, vraiment à me dire, mais est-ce que je gamberge? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est pas utile? Et la plupart du temps, ça l'est pas. Et donc, je dis arriver à faire la part des choses, c'est d'arriver à mettre ces idées qui peuvent devenir vite des idées noires vraiment de côté avant qu'elles deviennent stressantes ou inhibantes.
Alors, cette journée du 12 février 92 a failli ne pas avoir lieu car le matin, il y a beaucoup de brouillard et Jean-Claude Killy dit on va annuler l'épreuve.
Oui, c'est ça. En fait, on s'est réveillé puis on a vu le brouillard, on a vu la neige, on a vu voilà les conditions météo qui n'étaient pas du tout au rendez-vous. Alors on s'y attendait un peu, mais Jean-Claude appelle à ce moment-là, nous appelle sur la piste avant de prendre sa décision, parce que son souci en tant qu'organisateur, c'était que de préserver l'équité entre les athlètes. Et pour que l'équité soit respectée, il fallait que tout le monde ait les mêmes conditions. Alors si le mauvais temps, si tout le monde a mauvais temps, ben tout le monde a mauvais temps. Si tout le monde a beau temps, tout le monde a beau temps. Mais il se trouve que on était deux Français à partir en dernier sur cette course-là et que la météo se dégradait et que donc les deux Français qui partaient à la fin allaient skier sous des conditions de neige pires que pour les autres. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il a dit, on va reporter au lendemain. Et avant de prendre sa décision, il a quand même appelé Nano Pourtier, donc le capitaine, pour demander un peu comment les choses se passaient sur la piste. Il se trouve que moi, je passais à côté. C'est une vraie chance. Et Nano me dit, Edgar, qu'est-ce que t'en penses? J'ai Jean-Claude au téléphone. Ils avaient des radios comme 2000, des téléphones satellites. Et il me dit, Edgar, qu'est-ce que t'en penses? Et j'ai dit à Nano, je lui ai dit, tu diras à Jean-Claude que c'est toujours une belle journée pour être champion olympique. Et il comprendra. Et Jean-Claude, qui a gagné le slalom des Jeux de 68 à Champs-Rousses dans un brouillard à couper au couteau, a raccroché et a laissé la course courir. Et c'est là où on se dit, on a une chance formidable d'avoir aux manettes des gens compétents. Des gens qui savent de quoi on parle, qui savent ce qui se passe dans la tête d'un athlète quand il se retrouve au départ d'une course. Et ce qui se passe dans la tête d'un athlète quand on est comme ça au départ d'une course, c'est quand le moment est venu, il est venu, c'est pas la météo, c'est pas la conjoncture qui va venir changer quoi que ce soit. Si on est prêt, on est prêt dans toutes les conditions.
Et ce matin-là, vous saviez que vous étiez prêt, que c'était le moment, avec Gros Piron.
Et j'en avais envie. J'avais pas envie de dormir. Il y a deux choses que j'avais pas envie, dont j'avais pas envie. La première, c'était de dormir une nuit de plus, à mal dormir. Et la deuxième, surtout, c'était de prendre cette responsabilité en disant, mais non, peut-être que demain, ça sera mieux. C'était pas ma responsabilité, c'était celle de Jean-Claude Killy. Et c'était aussi celle des juges qui étaient en bas de la piste et qui, si eux n'avaient pas pu faire leur métier, auraient effectivement pu appuyer sur le bouton pour dire on reporte.
Oui, car les juges sont très importants. Il n'y a pas que la descente, il n'y a pas que le temps, il y a aussi les mouvements.
Ah ben, les juges, en fait, sont là pour noter notre descente. Le chrono qui, lui, peu importe le brouillard, va de toute façon faire correctement son job, ne compte que pour 25% de la note, mais les 75% qui restent, c'est lié à un facteur humain, c'est un jugement humain. Donc ces gens-là doivent pouvoir faire leur boulot. Et je dois dire qu'on est quand même passé ric-rac, parce que quand je me suis élancé, les juges ne voyaient pas le haut de la piste. Peut-être 10-15 premiers mètres. Et moi, je suis sorti du brouillard et ils m'ont noté, mais c'est vrai qu'ils ne m'ont pas vraiment vu clairement sur les 10-15 premiers mètres. Ils ont vu une silhouette dans le brouillard, quoi.
Ça s'est rattrapé ensuite. Vous êtes tellement décontracté, Edgar Cropiron, que vous faites un clin d'œil à Olivier Allemand, votre partenaire, qui va être second d'ailleurs. C'est vraiment, on n'a pas l'impression que vous courez le titre de votre vie.
Si, je cours le titre de ma vie, je le sais très bien, ouais. Mais ça n'empêche pas de... Comment dire, ça n'empêche pas de vivre normalement. Bien sûr que, enfin, les enjeux sont colossaux. C'est-à-dire que moi, ce titre, il peut changer ma vie. Il va changer ma vie quoi qu'il arrive. Si je gagne, ça va être en bien. Si je perds, ça va être en pire. Donc, et ça, effectivement, je le sais. Mais c'est pas une raison suffisante pour ne pas être soi-même, pour se mettre une pression supplémentaire, alors que la pression est déjà colossale. Et c'est qu'il faut garder la tête froide dans ces moments-là, c'est absolument essentiel de savoir qui on est, d'où on vient, ce qu'on a fait pour en arriver là. Et bien souvent, si on est arrivé là, c'est parce que on est resté fidèle à soi-même. Et dans ces moments à fort enjeu, j'allais pas jouer au mec supérieur, j'allais pas jouer au mec tendu, non, j'étais moi-même et j'avais aucune raison de me renier.
Oui, et vous étiez en plus le grand favori de l'épreuve.
Oui, je suis arrivé favori parce que j'ai dit justement à la presse que j'allais gagner ces jeux. Et on m'a pris pour un fou, arrogant, un peu prétentieux, mais c'était mon style à moi. Et le jour de la course, je savais très bien, mais enfin, même dès le moment où j'avais dit 3 ans avant, ça a commencé 3 ans avant quand j'ai commencé à dire que j'allais gagner cette course, je savais très bien que c'était pas gagné. Mais je savais une chose, et c'est à ça que je me suis raccroché, c'est que j'étais capable tous les jours de m'entraîner, c'est-à-dire de faire le job pour que dans le portillon de départ, j'ai les atouts, j'ai les cartes en main. Vous voyez, je sois en mesure de l'emporter. Et c'était ça mon enjeu à moi. C'était pas de savoir si j'allais gagner ou pas. C'était de savoir que tous les jours, j'allais faire le job et j'étais capable de faire le job pour avoir les cartes en main dans le portillon de départ. Et après, c'est la magie du sport, quoi. Ouais.
Et vous avez dit à l'époque, Edgar Cropiron, que vous étiez en mission et que vous l'avez accompli.
Oui, c'était pour moi une mission. C'est personnel. On a la chance aujourd'hui de vivre dans un monde où on peut se fixer des objectifs, on peut avoir des ambitions, on peut se dire j'ai une mission, on peut se sentir missionnaire de quelque chose et se donner les moyens ensuite de réaliser ces missions.
Alors ces prévisions, ça n'a pas fait que des amis, puisqu'on vous a dit, on a dit que vous aviez la grosse tête, vous avez dit de temps en temps d'ailleurs que vous avez pris des claques et que c'était normal, vous les avez assumés ces coups de gueule.
Disons que mes résultats m'ont permis de prouver que j'avais raison de le faire comme ça, mais vous savez, peut-être que c'est difficile d'affronter le regard des gens sceptiques ou négatifs quand on est comme ça en mission, quand on s'est fixé un objectif, quand on affiche cet objectif. On sait très bien qu'on peut, enfin on le sait, on découvre très vite qu'on peut pas plaire à tout le monde, même si la mission est valeureuse, on ne plaît pas à tout le monde, il y a des gens qui veulent la même chose, il y a des gens qui ont pas envie de vous voir réussir, mais la question c'est est-ce que j'ai consacré du temps à essayer de convaincre ces gens-là que j'ai raison, ou est-ce que j'ai pas plutôt intérêt de consacrer ce temps et cette énergie à essayer de créer les conditions pour que ça gagne. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Et ensuite, le résultat est uniquement le résultat. Donc, il faut attendre, et c'est long, mais il faut attendre, parce qu'il n'y a que le résultat qui, finalement, va convaincre, va dire si j'avais raison ou si j'avais tort.
Vous avez beaucoup fait pour le ski acrobatique, grâce à vous, on le connaît, mais il y avait déjà un fan club. Je crois qu'il y avait 20 000 spectateurs qui étaient là, et que la moitié de la Clusaz venait à chacune de vos compétitions, Edgar Cropiron.
Ah, le fan club, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire parce qu'en fait, au départ, c'est mes copains du club des sports de la Clusaz qui ont monté ce fan club et qui, effectivement, m'ont suivi, m'ont soutenu, ont toujours été là pour faire la fête. Et on les a vus, on les a entendus. Et il y a un truc qui a été fantastique, c'est que à 20 minutes avant la course des Jeux Olympiques, je les entendais, ils étaient là. Moi, j'étais dans la raquette d'arrivée. J'ai donné mes skis à Nano. Je lui dis attends, je reviens. J'ai enjambé les filets, je suis allé voir mes copains du fan club. On a secoué les cloches et je me souviens, je m'entends encore gueuler. On va tous les pourrir. C'est comme ça. C'était. Et les gars étaient à la fois. Enfin, elle était fou, quoi. De voir que je venais là et que j'étais avec eux à communier. Et ça a duré 3 minutes. J'ai rendu les cloches. Je suis reparti, j'ai réenjambé les filets et je me suis dit, ça y est. J'ai atteint déjà un objectif. Et vous savez, cet objectif, il était très simple, c'est que ce matin de la course, je me suis levé et je me suis dit, je la vive pleinement cette journée, je veux qu'une seconde dure une minute, je veux qu'une minute dure une heure. Et à ce moment-là, ce moment-là a peut-être duré 2 minutes, 3 minutes grand maximum, et j'en ai pris pour des heures, pour des années de bonheur.
Alors, il faut savoir que ces Jeux d'Albertville ont été attribués à la France, que Jean-Claude Killy a fait beaucoup, et la veille du vote, il était devant l'ascenseur dans l'hôtel qui menait aux chambres, et il disait un mot à chacun des membres du jury. Et lorsque le patron de la fédération est arrivé, il lui a dit « Jean-Claude, tout se passera bien ». Et Jean-Claude Killy a compris à ce moment-là que les Jeux Olympiques étaient à Albertville.
Ouais, c'est fantastique. Effectivement, ça c'est un combat absolument magnifique et grandiose que de pouvoir candidater et ramener les Jeux dans son propre pays, ça.
Et ce qui est étonnant aussi, c'est votre comportement, Diego Piron, c'est-à-dire des soirées dans les discothèques. Et vous avez dit d'ailleurs que votre régime, c'était une semaine vin rouge, une semaine vin blanc.
Ouais, ça c'est pour amuser la galerie, c'est sûr que... c'est sûr que parfois... Non mais on me posait des questions, savoir si j'avais un régime particulier. Et donc effectivement, je parlais de mon régime dissocié, une semaine vin rouge, une semaine vin blanc. Oui. C'était pour amuser la galerie, voilà. Ça m'amusait bien, ça faisait rire tout le monde. Et c'était une pirouette à une question qui pouvait me paraître trop sérieuse, voilà.
Et il faut savoir qu'à Annecy, où vous vivez aujourd'hui, il y a un caviste qui a immergé 300 bouteilles de vin au fond du lac d'Annecy à 22 mètres, parce qu'il dit que ça améliore le vin, qu'il devient un très grand cru, et les vins blancs explosent littéralement en bouche, et les rouges ont des tanins plus fins.
Je me mets à la plongée sous-marine, alors.
Je pense que ça vaut le coup. Et puis, vous avez gagné, et beaucoup de femmes ont gagné, car c'est un sport de parité, pratiquement, le ski acrobatique.
Oui, c'est ça. Et puis, je voudrais saluer... Tout à l'heure, j'ai dit que Raphaël Monod était la plus grande skieuse de l'histoire du ski de bosse, mais en disant ça, je ne veux surtout pas occulter celle qui a le plus grand palmarès en ski de bosse aujourd'hui, qui est Perrine Laffont, qui est championne olympique. Elle est française, elle a 20 ans. C'est quelqu'un d'adorable et une skieuse formidable. Elle a remporté l'année dernière 100% des Coupes du Monde dans sa discipline, ce qui n'avait jamais été fait. Et effectivement, les bosses au féminin en France, ça cartonne vraiment.
Et puis ensuite, vous avez fait d'autres choses. On en parle dans quelques instants avec une autre date, le 7 septembre 2020. A tout de suite sur Sud Radio avec Edgar Gros-Piron.
Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie. Celle de mon invité, Edgar Gros-Piron. Alors, on a parlé de vos titres de champion. Et puis, on va parler de votre reconversion. Parce que le 7 septembre 2020, on a annoncé des masterclass sur Internet à destination du grand public. Alors, les masterclass, beaucoup de champions en font. Mais sur Internet, pour le grand public, c'est plutôt rare.
Oui, c'est très rare, mais c'est l'avantage d'Internet, c'est qu'on peut rendre accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 ces masterclass sous forme de vidéo, avec aussi moi j'ai fait un cahier d'exercices où les gens peuvent aller beaucoup plus loin sur une démarche de recherche et de développement personnel au travers de cette masterclass. Et donc effectivement, les technologies aujourd'hui permettent des choses qui n'étaient pas possibles avant.
Il y a plusieurs leçons.
Oui, en fait, j'ai intitulé ma masterclass « Comment rebondir après une crise ». Et j'ai trois
ça
grandes.
Ça tombe bien en ce moment.
Ouais, ça tombe bien, ouais. Et je pense que, enfin, il y a trois grandes étapes pour ça qui déterminent tout un tas, effectivement, de leçons. Il faut d'abord endiguer la crise, hein, faire en sorte de stopper la spirale infernale, puis ensuite reposer des fondamentaux, parce qu'une crise, elle nous fragilise sur des bases que sont les bases. C'est souvent, ça nous fragilise financièrement. La santé aussi peut en prendre un coup, nos compétences, notre boulot peut en prendre un coup, et puis mentalement, ça nous bouffe, donc il faut reposer ses fondamentaux avant ensuite de repartir en conquête, parce qu'il ne s'agit pas de rester tanké comme ça dans la crise.
Et comment est venue l'idée de s'adresser au grand public sur Internet pour justement donner des conseils, Edgar Gros-Piron ?
Vous avez raison, ça fait 20 ans que je donne des conférences pour des entreprises, et donc j'étais accessible d'une certaine manière aux entreprises, ce qui n'est pas moi, mais les enseignements que je prodigue aux entreprises, en fait, me donnaient tout le temps, à chaque fois, j'avais des discussions avec des gens qui me disaient « Ah, si ma femme avait entendu ce que vous avez dit, si mes enfants pouvaient entendre ce que vous avez dit. » Et ça a créé, en fait, comme ça, un appétit pour me dire « Mais comment est-ce que je pourrais rendre accessible tout ce que le sport m'a transmis au grand public ?» Et le confinement, en fait, est passé par là, et j'ai enfin pu sortir ce projet que j'avais en fait en tête depuis bien longtemps. Le confinement m'a laissé le temps de pouvoir enfin écrire et filmer ces masterclass et les mettre en ligne à disposition du grand public.
Oui, on va sur Edgar Gros-Piron, on les trouve tout de suite.
Voilà, on va sur grospiron.net, c'est le nom de mon site internet. Et vous tapez masterclass Edgar Gros-Piron et vous trouverez effectivement ces produits qui sont accessibles, comme je vous le disais, en ligne.
Et le grand public en a de plus en plus besoin de ces conseils aujourd'hui dans le monde que nous vivons.
Alors, je suis toujours vigilant sur le côté conseil, parce que ça voudrait dire que j'apporte des solutions toutes faites. Or, c'est pas du tout le cas. Ce que les gens, en fait, ont vraiment besoin, et ça, je m'en aperçois tous les jours dans mon métier, c'est que les gens ont besoin d'énergie. Ils ont besoin d'énergie positive, ils ont besoin de confiance, ils ont besoin de pouvoir s'engager. Et la vocation même de ma masterclass, c'est ça, c'est de leur filer la patate, de leur donner l'envie pour traverser ces masterclass avec lucidité, avec sérénité, avec enthousiasme, avec engagement. C'est pour ça que j'ai créé ces masterclass. Comme les gens ressortent des conférences que je donne en entreprise avec la patate, en se disant « mais ouais, bien sûr, on a reposé l'église au milieu du village », je voulais la même chose avec les masterclass.
Alors, tout a commencé lorsque vous avez 26 ans, vous remportez un titre de champion du monde en 95 à la Clusaz, la boucle est bouclée, vous arrêtez, vous décidez d'arrêter, vous auriez pu aller beaucoup plus loin.
Oui, j'aurais pu arrêter plus loin, mais pour quelles étaient les bonnes raisons que j'avais d'aller plus loin ? Eh bien, celle que j'avais identifiée n'était pas très bonne, puisque si je continuais, en fait, c'était peut-être pour faire fructifier mes partenariats, mes sponsors, et pas pour aller gagner, pas pour aller chercher de nouvelles victoires. Or, moi, ce qui m'a toujours motivé pour aller à l'entraînement, c'était d'être meilleur, c'était d'aller développer mon propre potentiel, c'est parce que le ski, voilà, me rendait heureux, répondait à mon besoin d'être dehors, de relever des challenges, de partager une passion avec des gens qui partageaient la même passion. Et continuer le ski, alors que j'avais tout gagné, quelque part, j'avais un peu bouclé la boucle aussi à l'âge de 26 ans, en gagnant un championnat du monde à la Clusaz, c'était continuer le ski pour des raisons qui étaient secondaires, à la limite pour entretenir, pour continuer de gagner ma vie, entretenir un peu la gloire, un peu, voilà, et de continuer d'être sous le feu des médias. Mais tout ça, ça n'est valable qu'à partir du moment où on a des résultats. Et donc, si on n'a pas en tête la volonté, l'ambition d'aller chercher des résultats, ce qui n'était plus vraiment mon cas à ce moment-là, il faut prendre des décisions qui s'imposent, qui sont sages et qui consistent à se dire si je veux continuer à réussir, il faut que je me fixe d'autres ambitions, d'autres objectifs, mais peut-être dans un autre domaine de ma vie.
C'est comme ça que vous prenez des cours, si j'ose dire, dans des cabinets de conseil en management et que vous apprenez le management. C'est venu comment, Edgar Gros-Piron ?
Par deux biais. D'abord parce que je l'ai pratiqué en étant moi-même, en développant une boîte, en manageant des gens, aussi en étant salarié dans des boîtes où j'ai eu des responsabilités, et puis surtout parce que à un moment donné je me suis dit moi qu'est-ce qui m'intéresse et qu'est-ce qui fait ma force, qu'est-ce qui fait ma valeur, et je me suis aperçu que ce qui faisait ma force, ce qui faisait ma valeur, c'était plutôt lié au sport, mais à ce que le sport m'avait appris. Et c'était, à un moment donné, une volonté de le transmettre, mais de manière assez large. Et du coup, c'est comme ça que j'en suis arrivé aux conférences. Et pour donner des conférences, il suffit pas de raconter sa vie. Parce que ça, à la limite, bon, c'est sympa, les gens passent un bon moment, mais c'est pas ça, donner une conférence. Donner une conférence, c'est faire passer des messages. C'est donner aux gens envie de donner le meilleur d'eux-mêmes dans leur domaine, pour leur propre bonheur. C'est vraiment ça. Et pour en arriver là, effectivement, il faut pas juste raconter sa vie. Il faut avoir acquis des connaissances dans le monde, enfin dans l'univers, dans le domaine du management, dans le domaine de la motivation, dans le domaine du développement personnel. Parce que ces théories-là vont donner du corps à la pratique, corps aux anecdotes.
Encore une fois, vous avez été un pionnier dans le genre, vous avez créé, je crois, un cabinet de conseil en stratégie de croissance pour les PME. Ça ne se faisait pas à l'époque, Edgar Copiron.
Alors là, je ne revendique pas la paternité de ce cabinet, puisque je me suis, en fait, au début de cette aventure, associé avec le fondateur, Michel Courtois, de ce cabinet. Et là aussi, ça ne se faisait pas. Et quand on était sportif, on ne s'associait pas dans des affaires comme ça. On restait dans son monde, on entraînait, ou dans le ski, voilà, on était moniteur de ski, on avait son magasin de sport. Non, moi, je suis allé dans le monde de l'entreprise et j'ai voulu y aller à fond. Et j'ai aussi investi de l'argent en pariant sur des projets. Et ces projets étaient aussi, pour moi, des leviers de formation, des moyens d'apprendre ce que je décline tous les jours en conférence.
Et vous avez créé une start-up même, je crois.
Ah oui, mais j'ai fait plein de choses, en fait. J'ai créé une start-up. J'ai investi, là, aujourd'hui, je suis investi dans 4 sociétés différentes, dont 2 start-up. J'ai créé les masterclass, qui est une vraie diversification par rapport aux conférences. J'ai aussi des implications dans le mouvement olympique.
Il y a des missions régulièrement.
J'ai des missions dans le mouvement olympique. J'en ai eu sur Paris 2024. J'en ai pour le CIO régulièrement. J'ai une vie qui me convient parfaitement. Et c'était le but de ma reconversion, parce que c'est une vie où chaque matin, je me levais pour faire quelque chose de différent. Et moi, c'est ce qui correspond à mes besoins. Si vous voulez, moi, pour être bien dans mon job et bien dans ma vie, il faut que je combatte la routine et la fainéantise, parce que je suis assez fainéant de nature.
Ah oui, ça se voit pas.
Mais non, mais ça se voit pas, parce que je combats cette fainéantise.
En travaillant énormément.
En ayant des rêves à réaliser. Comprenez? En ayant des ambitions, en donnant du sens à ces ambitions, en donnant du sens à ma vie, et en essayant de me nourrir de tout un tas d'expériences différentes, en me mettant dans des situations où je dois apprendre si je veux pouvoir être au rendez-vous de ce que les gens attendent. Vous comprenez?
Oui.
Il faut créer les conditions pour être motivé, pour faire des choses, pour faire que sa vie, elle nous plaise, en fait. Il suffit pas de se dire, ouais, d'attendre que les planètes soient alignées, parce que ça, elles s'alignent de temps en temps, hein. C'est comme une montre cassée, vous donnera l'heure juste 2 fois par jour, hein. Mais on peut pas attendre que, voilà, les planètes s'alignent pour être heureux, pour faire en sorte de réussir sa vie.
Et puis, vous avez continué à défendre le ski acrobatique, Edgar Gropiron, en le commentant à la radio et la télévision.
Oui, parce que ça, c'est un peu la... Comment dire? C'est un peu un privilège. Parce que ce qui vient derrière ça, par exemple, sur un sport comme le ski de bosse, bah, c'est de pouvoir continuer à être proche des athlètes, être proche du sport, et puis être aux Jeux Olympiques, venir sur les Jeux Olympiques. Et je vous avouerai que être... avec une accréditation presse aux Jeux Olympiques, on a un super... Enfin, on est très privilégié, on a des accès partout, et c'est quand même très agréable de vivre les Jeux comme ça.
Oui, et puis un soir, vous avez commenté une compétition des JO, mais non pas à la télévision, mais dans un hôtel de la Clusaz.
On s'attendait à mieux, mais c'est un bilan qui peut quand même être satisfaisant, dans la mesure où on voit qu'on a une équipe de France de boss,
voilà,
qui tourne bien.
Vous vous souvenez de ce soir-là?
Voilà, et qui...
C'est assez étonnant de vous voir dans un hôtel devant l'écran en train de commenter pour les clients.
Oui, c'est ça. Bah, c'était les Jeux de Pyeongchang, hein,
oui.
Et donc les derniers Jeux qui ont eu lieu en 2018, les derniers Jeux d'hiver, effectivement. Et je le commentais pour les clients de l'hôtel. Voilà,
assez
sur un écran géant, parce que j'étais pas allé. Enfin, je suis allé à Pyeongchang, mais la semaine suivante. Et donc je m'étais dit, bah, ce serait. Enfin et voilà, et l'hôtel m'avait demandé si c'était possible de le faire, et bah oui, bien évidemment, j'ai trouvé que c'était sympa de le faire et d'avoir ces échanges, ces discussions avec les clients sur un sujet qui me passionne.
Et la Clusaz, vous continuez à y vivre, et tout près, à Annecy. C'est-à-dire que vous êtes maintenant complètement installé près des montagnes, même en n'étant plus au sommet de votre sport.
Oui, c'est vrai que l'environnement me plaît, cet environnement-là me plaît, parce que effectivement, bah, c'est un bel environnement d'abord. c'est juste magnifique de vivre, en Haute-Savoie, sur les bords du lac d'Annecy, et de pouvoir monter régulièrement à la Clusaz où on a des ancrages familiaux. Ma femme est originaire de la Clusaz, et donc de vivre là-bas, c'est une grande chance. Et pour avoir énormément... Vous savez, moi, je suis quelqu'un où je peux voyager beaucoup, mais il faut que j'ai des racines quelque part. Et ben, maintenant, elles sont là, elles sont implantées là-bas. Et c'est là que... j'ai fait ma vie.
Oui, en faisant du ski de temps en temps quand même.
Tous les week-ends, je skie l'hiver, bien sûr, ouais, dès que je peux. Je suis pas complètement accro, enfin tout, au ski. Moi, j'aime le ski pour l'évasion, pour le partage. J'aime bien skier avec mes enfants, j'aime bien skier en famille, avec ma femme, et j'aime bien pratiquer aussi bien le ski que le snowboard. Ça va dépendre des conditions. J'aime bien le ski pour aller au resto ou pour le ski bar. Vous voyez, c'est pas juste un sport, le ski, c'est un mode de vie.
Oui, et un mode de vie avec d'autres occupations. Ces masterclass donc sont disponibles pour tout le monde sur Internet. Il faut aller donc sur grospiro.net et puis on trouve ces masterclass qui, à mon avis, apprendront beaucoup de choses à celles et ceux qui ont des ambitions dans la vie et ont besoin de nouveaux conseils.
Merci.
Grospiro, et puis continuez comme ça, parce que vous n'allez pas arrêter comme ça, non ?
Non, ça n'est que le début des masterclass, donc...
On en reparlera. Ouais. Merci en tout cas d'avoir participé aux Clés d'une vie. C'est la fin de cette émission pour aujourd'hui. Continuez à écouter Sud Radio.